déchiffrant en me bidonnant. La prose poisseuse des critiques, la diarrhée des maîtres à penser sur les artistes, l'art et le monde, pauvre débile dont la tête n'est souvent que vieille machine à coller sur chacun de nous. Voyant avec effarement qu'on croit encore dur comme fer, qu'un poète c'est très différent d'un prolo qui va au charbon, alors que si poète il y a, c'est dans les combats qu'il se trouve, dans les combats des petits matins, dans les lendemains qui déchantent.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, le 89.4 FM et www.radio-libertaire.org, bien sûr. Dans quelques instants, le Ferré Club.
Sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Ils sont dingues. Oh, salut.
La Radio Libertaire, 89.
Le Ferry Club, votre tranche hebdomadaire de Léo sur le 89.4 FM, c'est-à-dire Radio Libertaire, 89.4 FM, bien sûr. La voix de la Fédération Anarchiste, que vous écoutez également, que vous écoutez, oui, pourquoi pas, sur radio-libertaire.org. À l'instant même, sous la direction de Léo Ferré, interprété par l'Orchestre Symphonique de Milan, l'ouverture Egmont, composée par Ludwig van Beethoven en, je sais plus, 1807, 5, 4, je sais plus. À l'instant même, absolument. Je prends une petite voix un petit peu façon radio qui diffuse de la musique classique, quoi, un peu comme ça. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va bien derrière le lien, derrière le poste, que vous êtes en pleine forme. Et puis courage à celles et ceux qui ne supportent pas la chaleur, hein, comme d'habitude. Et voilà, une pensée particulière à celles et ceux qui ont du mal avec ce principe. Non, avec cette réalité. Voilà. Alors, nous allons passer cette heure ensemble. Nous allons écouter en fin d'émission la chanson Ludwig de Léo, bien évidemment. Je dis bien évidemment parce qu'on a commencé voilà, avec cette ouverture Egmont dont se sert Léo pour chanter la chanson Ludwig. Et donc, d'une certaine manière, la fin de cette émission répondra à ce début. Je dois adresser trois saluts particuliers pour commencer. Le premier à Marc Châtelier, un grand merci à Marc Châtelier qui participe au cahier Léo Ferré. Je te remercie de m'avoir fait parvenir quelques exemplaires des cahiers Léo Ferré et puis surtout de cette perspective que nous avons d'ores et déjà dessinée ensemble et de nous retrouver à la rentrée prochaine, en septembre ou octobre, je ne sais pas encore exactement parce qu'il y aura les vacances du Ferré Club hein, début septembre, mais se retrouver à ce moment-là en compagnie de Luc Vidal pour parler ensemble des cahiers Léo Ferré qui verront une nouvelle parution à la rentrée 2025, à la rentrée scolaire, j'ai envie de dire, hein, 2025. Donc, impatience, bien sûr, mais de vous rencontrer, Marc et Luc, toi, bien sûr, Marc, et puis Luc, en ta compagnie, et puis de ce nouveau numéro des cahiers Léo Ferré, qui, gageons-le, hein, c'est pas évident, mais espérons-le, ne sera pas le dernier. Voilà, un salut à toi, Marc, merci encore. Un deuxième salut à Jean-Baptiste Foulquier. Alors, salut Jean-Baptiste, mais je m'adresse surtout aux auditeurs et auditrices qui auraient fait attention à une annonce que j'ai faite il y a 15 jours de cela. Je vous annonçais que Jean-Baptiste se produirait samedi prochain, nous serons le 14 juin, au théâtre Le Passage vers les Étoiles. Malheureusement, ce concert est annulé pour des raisons techniques et donc il n'aura bien évidemment pas lieu. Hein. S'il est annulé, c'est une évidence même. Donc voilà, prenez note, si jamais vous aviez l'intention de venir samedi prochain à 16h, il n'y a plus de 16h hein, samedi prochain. Enfin si, il y aura un 16h, mais ce sera ailleurs qu'au théâtre, ou alors ce serait bien dramatique hein, et dans ces conditions. Bon, enfin bon, voilà. Donc prenez note, veuillez noter que le concert qui avait lieu, qui aurait dû avoir lieu samedi prochain, a été annulé, malheureusement. Voilà. Et il faut que je pense à faire la communication à mon ami Max, de l'émission Il y a de la fumée dans le poste, qui avait l'intention de venir. Faut que j'y pense. Et puis un troisième salut qui tombe un peu sous le sens d'une certaine manière, c'est à Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Il y a quelques mois de cela, je crois que nous étions en février ou en mars, à l'initiative de David Noe qui rebondissait sur certaines paroles de la chanson Ludwig que nous écouterons en fin de programme. Coriolan n'était qu'un prétexte, nous dit Léo dans la chanson. Et donc je vous avais proposé de donnez votre réponse à cette idée. Qu'est-ce que ce prétexte, Coriolan n'était qu'un prétexte, comment expliquer, comment décrypter ces paroles dites par Léo, prononcées par Léo dans cette chanson. Et cela avait donné lieu à quelques réponses, notamment une d'Alaric qui était formulée avec sa plume que nous connaissons, hein, bien évidemment, et une dernière réponse de Jean-Jacques que je n'avais pas eu le temps de retransmettre à l'antenne, et je lui avais promis que lors de la prochaine diffusion de Ludwig, eh bien, je lirai sa réponse qui est longue, mais qui est motivée, quoi, hein, une vraie réponse sérieuse. Donc voilà, en fin de programme, et juste avant, bien évidemment, Ludwig, eh bien, je vous proposerai cette interprétation de cette parole de Léo, dite dans la chanson Ludwig, « Coriolan n'était qu'un prétexte oh. ».
Avec nos pieds chaussés de sang, avec nos mains clouées aux portes, et nos yeux qui n'ont que des dents, comme les têtes qui sont mortes, avec nos poumons de camel, avec nos bouches sparadrap et nos femmes qu'on monte au ciel dans nos ascenseurs pyjama. Des rocs, coco, des rocs. Avec nos morales bâtardes, filles d'un Christ millésimé et d'un almanach où s'attarde notre millénaire attardé, et puis nos fauteuils désossés portant nos viandes avec os, et la chanson des trépassés, des jours de gloire de nos boss. Terroque, coco! Terroque! Avec nos oreilles au mur, avec nos langues polyglottes qui magnétophonisent sur tous les tons et toutes les bottes, avec nos pelisses nylon qui font s'attrister les panthères dans les vitrines du Gabon. Avec nos journaux pansements qui sèchent les plaies prolétaires et les cadavres de romans que les concours vermifugèrent, avec la société bidon qui s'anonymise et prospère, et puis la rage au pantalon qui fait des soldats pour la guerre. Cela dit, en vers de huit pieds, à seule fin de prendre date, je lâche mon humanité et je m'en vais à quatre
noir à la marée en robe noire. Quand les goélands pour y voir préfèrent d'y voir de mémoire. Les corbeaux blancs de Monsieur Pau géométrisent sur l'aurore. Et l'aube leur laisse le pot où gît le homard nevermore. Oh, chanson sûre des marins dans le port. Nage des squelettes. Et sur la dune, le destin vend du cadavre aux goélettes. Ces chiffres de plumes et de vent volent dans la mathématique et se parallélisent tant que le baril joint l'esthétique. En robe noire, quand les cormorants pour me voir préfèrent me voir de mémoire. Tous ces varecs me jazzent tant que j'en ai mal aux percussions. L'avenue sombre du gisant soutient la grève des poissons. Des raies transies sur le bitume parlaient de se faire beurrer. Des loups cherchez ceux qui transhument quand les mouettes ont déraillé. En croix, granit, Christ, bikini, comme nègre dans l'illuminure, je vois des oiseaux crucifix portés sur le dos mon carbure. Se voir préfère se voir de mémoire. Les coquillages incompris, la perle noire à leur corsage, attendent que vienne la nuit pour se remettre à l'étalage. Le crépuscule des atouts descend de plus en plus vers l'est. Le général avait l'atout c'est nous qui toussions sur un geste. Je préfère le drapeau noir à la marée en robe noire quand les marins, pour ne rien voir, mettent en route la mémoire. Et si des fois le drapeau noir sur un voilier on voit le noir, mettait la flibuste au pouvoir, ça pourrait déranger l'histoire qui remettra le drapeau noir à nos voiliers, on voit le noir, et les marins au beau milieu mettront en route leurs beaux yeux. Et si des fois le drapeau noir sur un voilier, on voit le noir, mettait la flibuste au pouvoir, ça pourrait déranger l'histoire qui remettra le drapeau noir à nos voiliers, on voit le noir, et les marins au beau milieu mettront en route leurs beaux yeux sur la mer bleue.
La mer Noire, à l'instant, un extrait de l'album La violence et l'ennui, paru en 1980 chez RCA. Et juste avant, nous écoutions T-Rock Coco, un extrait de l'album de 1962 intitulé La langue française et paru chez Clébard. Quelques mots, quelques mots à propos de la presse, puisqu'il a été question de Léo, alors de manière malheureusement assez lapidaire, mais quand même un peu précise, il faut le dire. Il y a quelques jours de cela, sur la chaîne de radio dont le nom, cet humoriste là qui avait du mal, qui butait sur certains mots et qui hop retombait sur une autre formule. Je m'en rappelle plus. C'était pas Pierre Rep, non, je sais plus. Bon, enfin bon, passons. Donc sur la station nommée Ici, anciennement France Bleu. Oui, ça a changé il y a quelque temps de cela et maintenant, comme on change un peu tous les noms, Ici c'est l'ancien France Bleu. Et alors sur cette station, il y a un animateur qui s'appelle Nicolas Lespaul. Un sacré nom, et il anime une chronique, ou une émission, qui s'appelle 100% Collector. Alors l'émission, elle est un peu, je sais pas si c'est une émission, on peut dire plutôt une chronique, parce que ça dure 5-6 minutes. Et il présente une chanson, et dans cette chronique, lors de cette chronique, le 4 juin dernier, Nicolas Lespaul s'est intéressé à la chanson « C'est extra » de Léo Ferré, avec une petite pastille à écouter sur l'internet maintenant, mais qui a probablement été diffusée bel et bien en hertzien, là où cette radio émet. Et l'intitulé de cette chronique était celui-ci « C'est extra, ode à la liberté entre érotisme et modernité ». Voilà. Alors Nicolas Lespaul, pendant quelques minutes revient sur la chanson, puis ensuite la fait écouter à ses auditeurs et auditrices. Et j'avoue que le petit papier qu'il a fait, la petite présentation, la petite éditorialisation de la chanson est assez intéressante, assez convaincante. On sent quand même un journaliste qui a travaillé un peu son dossier. Alors je m'excuse, hein, je suis un peu condescendant ou péremptoire en disant ça, parce que oui, vous prenez pour qui, monsieur? Vous êtes le dépositaire, c'est vous qui dites qui travaille bien ou pas? Non, pas du tout. Non, mais en tout cas, moi j'ai été, convaincu par la présentation de cette chanson. Alors bien évidemment, je vais pas vous diffuser sa chronique, hein. On va quand même laisser à ici, anciennement France Bleu, l'exclusivité de son travail, c'est bien normal. Mais néanmoins, je vous mettrai le lien sur le blog, bien sûr, missnight.blogspot.com. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller écouter cette pastille, voilà, fort intéressante. Alors une partie du texte, une partie du script est retranscrite sur l'article qui sert de base pour atterrir sur le site ici Paris, ici France Bleu. Ouais. Et donc une partie voilà est retranscrite, hein, je vais pas vous la lire, hein, c'est pas la peine, mais enfin c'est sympa, voilà. Disons que bravo à Nicolas Lespol quand même d'avoir eu, alors c'est vrai que cet extra c'est pas la chanson la plus originale du répertoire ferréen, j'en conviens, mais néanmoins il est question de Léo et force est de constater que c'est de plus en plus rare, hein. Alors bien sûr dans cette émission on est mal placé pour dire le contraire, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est un peu triste, comme il le mériterait. Pour bien des raisons, pour sa poésie, pour sa musique, pour son implication d'individu dans son travail de musicien, Léo ne s'est pas contenté de composer des chansons, d'en écrire bien sûr, mais d'en composer aussi. Il lui est arrivé, à partir des années 70 hein, notamment, il lui arrivait de manière systématique de diriger l'orchestre qui interprétait les musiques qu'il avait composées, quel que soit le pupitre, hein, que ce soit les violons, que ce soit les vents, que ce soit les cuivres, les percussions, etc. C'est Léo qui écrivait les scores de chacune de ses chansons, donc les scores, c'est-à-dire les partitions complètes, hein, quel que soit l'instrument. Et une fois qu'il avait écrit tout ça, eh bien, il se mettait au pupitre et il dirigeait l'orchestre symphonique de Milan, bien souvent, pour interpréter ce qu'il avait composé. Donc voilà, il y a aussi une implication, j'allais dire quasiment physique, de la chose. En tout cas, on voit que Léo mettait une grande part de son individualité dans sa musique. Et donc, ben, merci à Nicolas Lespol, qui est un des rares journalistes aujourd'hui à parler encore de Léo Ferré sur la radio. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Alors ici, c'est Radio Libertaire, hein. C'est 89.4 FM, et c'est pas de Dieu, pas de maître, pas de publicité, mais surtout pas de Dieu. Pas de maître aussi? Ouais, c'est vrai, pas de maître non plus. Ouais, bravo, bravo.
Le dossier de la nuit est tout blanc de ces miettes que l'on donne aux moineaux. Et aux baleines.
Comment ?
Baleine. Eh oui, il y a ici, dans le couloir, une baleine bleue.
Allons la visiter ?
Taisez-vous, monsieur l'avocat général. Les baleines, la nuit, c'est fantastique. Entrez, madame. Vous témoignez pour la nuit ?
Chez moi, il fait toujours nuit, dans nos âmes.
J'étais d'un grand pays sous-marin bleuté, bleu. Comme la nuit quand elle est bleue. Le bleu ne m'arrivait que par la voix des hommes. Moi, j'étais comme il faut le temps de me laver, de manger et de parler à mes copains. L'important est de ne pas s'imaginer être trop grosse. Ce sont les hommes qui ont peur de moi et ils ont tort. Nous parlons de loin avec tous les copains. Mon chant vient de là-bas où se tiennent les franges du temps qui passent et que vous mesurez, vous autres, avec des méridiens. Je suis un cétacé et vous, les chasseurs nucléaires aujourd'hui, depuis les Basques de ce siècle XIV. Vous voyez bien que je vous comprends, mais nous, le temps, on s'en fout. Il est plus grand que nous, et nous le savons bien. Il est instantané aussi, comme disait votre bachelard avec qui j'avais des rendez-vous du côté de la Sorbonne à Paris. Quand Gaston allumait et tisonnait son feu du matin, qui était beaucoup plus important que sa leçon de philosophie, il me disait qu'il préférait rater sa leçon que son feu. C'était pas un chasseur, bachelard, non, pas un chasseur, un enfant, sans doute. Un peu comme les biens que je porte 12 mois dans mon ventre, et qui naissent tout petits. 5 ou 6 mètres, ça dépend des chasseurs. Quand je suis pressé, je force un peu. Alors, il s'étire un peu plus. Je préfère rater ma leçon de philosophie ou mon petit. Je pars vers le sud avec mon amant, trouvé dans le Grand Nord, et puis là-bas, sud-atlantique, nous nous aimons. On se nourrit au lard de baleines. On mincit tout l'été et on baise, oui, comme vous. Avec, en plus, cette illusion que nous avons de l'aventure sous-marine et des chants dont nous nous émerveillons. Nous entendons de loin, de très loin. Nous nous parlons, nous nous aimons encore, et puis, à l'automne, nous nous quittons. Et dans les algues inventées, nous chantons la bruyère avec Apollinaire. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Et puis vinrent les Basques, siècle 14. Nous autres, nous chiffrons comme le carbone, 14 ou 15, on n'en a rien à foutre. Et puis vinrent les Basques, siècle 14, ils se pointaient jusqu'au Labrador, lèvres d'or, pas peureux les Basques, embouchure du Saint-Laurent, tu parles, et je t'enchanterai mon petit du Québec. Et tu ne sauras pas que mon fils est là-bas, dans le Grand Nord, et que je l'ai laissé, moi, drivant vers la côte. C'est bien le Larousse du siècle 20 au début, qui raconte des portes ouvertes. Ou bien on attend la bête sur la côte, ou bien on va la chercher en pleine mer, pardi. À l'automne, saison morte comme les amours, je me retrouvais seul, enceinte et comme un fil. Le lard, mon lard s'était barré, il le nourrit ce petit. J'allais me taper du krill, et comme il faut, faites-moi confiance. Suivant la chance, des fois, je faisais un bon coup de 700 à 800 kilos de krill. C'était pas dégueulasse, les trois étoiles, vous pouvez toujours vous les accrocher dans votre Michelin, homme tergalien, homme de la lignée des Seiko à quartz, fumier d'outrepassé, étant de l'aventure assise et dans les cliniques de chair apprivoisée. Vous pouvez nous chasser, vous pouvez faire de moi baleine bleue, bleue comme les crépuscules indécents, quand le soleil les innocente, bleue comme les particules psychologiques de la Vierge. Tu connais ? Vous pouvez faire de moi, mesurant 18 mètres et pesant 50 tonnes, vous pouvez inventer à partir de ma vie, loin de vos turpitudes et de vos nucléaires prétentions. D'ailleurs, vous verrez bientôt la marée nucléaire, et avec tous mes compliments, vous pouvez faire de moi 7 tonnes de lard, moins celui que j'aurais usé pour mon petit, et puis 22 tonnes de viande, et puis 9 tonnes d'os, et puis 2 tonnes de viscères, et puis, tenez-vous bien, 1,5 tonne de langue, et puis, vous pourrez dire que je ne parle pas, si je ne parle pas encore votre langage, j'ai tout de même de quoi vous lécher le sentiment, avec tout le respect que je vous dois.
Moi, baleine bleue, c'est moi.
Veux pas qu'on te foute un sac sur les ormeaux, prends ton callback, un vieux rafio, et Allegro demande au vent pousser au cul du bâtiment. Si tu ne veux pas, les enfants de la patrie, si tu ne veux pas qu'ils poussent des glands à ton képi, si tu ne veux pas, c'est peut-être ton droit. Miss Guéguerre, t'as beau faire du plat avec ton ratapla. Miss Guéguerre, Nikon Guerre, j'm'appelle Robinson, sacré nom de nom. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. À la pêche, si tu ne veux pas qu'on te foute un flingue dans les 10 doigts, sois pas si dingue, hisse ton pavois, et puis crois-moi, demande à ceux qu'ont bien voulu s'ils sont revenus, si tu ne veux pas que le fossoyeur te mette au rencard, si tu ne veux pas qu'il pousse des fleurs sur ton plumard, si tu ne veux pas, c'est peut-être ton droit. Miss Guéguerre, t'as beau faire du plat avec ton rataplat. Miss Guéguerre, Nikon Guerre, je m'appelle Robinson, sacré nom de nom. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. À la pêche, à la pêche. Si tu ne veux pas qu'on te foute une croix sur ton buffet, si tu ne veux pas qu'on parle de toi au temps passé, si tu ne veux pas qu'on fasse des mômes à ta moitié pendant que là-bas t'es comme une paume à te mesurer, si tu ne veux pas qu'il pousse l'atome
dans ton quartier si tu ne veux pas. C'est peut-être ton droit. Miss Guéguerre, t'as beau faire, t'as beau me faire du plat avec ton rat à plat. Miss Guéguerre, t'exagères, un jour nous irons sacré nom de nom. Ah, nous irons, nous irons, nous irons, nous irons, nous irons, nous irons à la chasse, à la chasse.
Sur le 45 tours paru en septembre 1961 chez Clébar, intitulé Les chansons interdites, sur lesquelles il devait y avoir également Thank You Satan, je sais plus laquelle, deux autres, et cette quatrième, en plus de Thank You Satan, voilà bien sûr, Miss Guéguerre. Aller à la chasse, peut-être pas quand même. Les chasseurs, c'est vraiment des... Ah, faut que je me censure, parce que là j'allais prononcer un mot un petit peu grossier, donc je me censure. Quant aux faiseurs de guerre, criminels de guerre, là aussi je vais me censurer, hein, parce que je parle plus politique dans cette émission, mais quand même. Bon, je pense à deux pourritures là, hein, directement là. Ouais, bon, enfin bon. Allez, passons. Enfin, bon, on aimerait bien quand même qu'il y ait un jour... Des faiseurs de paix, mais malheureusement avec allez, passons. Et donc juste avant, La Baleine Bleue, un extrait de l'opéra du pauvre paru en 1983 chez RCA, le tableau 3 et la scène 5 du tableau 3, La Baleine Bleue, magnifique Baleine Bleue. Allez, on approche de la fin et donc je vais vous lire ce mail que Jean-Jacques, alors je me suis pris un petit blast from the past parce qu'en fait c'était pas cette année le Ludwig, le Coriolan Prétexte Challenge, c'était l'année dernière quoi, c'est-à-dire que c'était en mars 2024 déjà. Et c'est quand même incroyable comme le temps passe vite. Alors je vais vous lire le mail que Jean-Jacques m'avait adressé à propos de cette idée, le prétexte Coriolan. Coriolan n'était qu'un prétexte, dit Léo dans la chanson que nous allons écouter dans quelques instants, que nous allons écouter dans quelques instants. Et voilà ce que m'écrit Jean-Jacques, je lis son mail. J'ai bien écouté la réponse faite par Alaric, sa définition du prétexte est juste. Il écrit « Coriolan était un prétexte pour Beethoven à faire de la musique, faire sa musique, à exprimer sa voix intérieure. Il rajoute ses idems pour Egmont. » Oui, certainement. Mais, il y a une différence avec la pièce « Coriolanus » de von Collin. La composition d'Egmont par Beethoven marque une implication beaucoup plus profonde car il a mis en musique toute la pièce de Goethe. Il ne s'est pas arrêté à créer une ouverture, si belle soit-elle, de 1809 à 1811, sa musique de scène comprend une ouverture pour orchestre en fa mineur, quatre entr'actes pour orchestre, deux mélodrames en fa mineur, deux lieder, les deux chansons de Claire, salut Claire, et une symphonie finale dite de la victoire, opus 84. La tragédie de Goethe est une partie de l'histoire de la révolte des Pays-Bas contre l'occupation espagnole. Son adaptation au théâtre prend quelques libertés avec la vérité historique. Il revient sur le travail de Beethoven. La collaboration Goethe-Beethoven fut parfaite. Cependant, Goethe n'aimait guère la musique de Beethoven, qui le déconcertait. Les deux hommes étaient fort différents. Beethoven était très indépendant en politique. Goethe était conseiller secret à la cour de Weimar. Goethe prônait plutôt le conformisme social, Beethoven l'estimait plutôt déshonorant pour un poète. Tu connais peut-être cette anecdote. Un jour, que Beethoven et Goethe se promenaient dans le grand parc jouxtant la résidence impériale, on annonça l'arrivée de l'impératrice et de sa suite. Goethe lâcha aussitôt le bras de Beethoven et alla se ranger sur le côté de l'allée et, courbé, chapeau bas, se prépara à saluer la sérénissime Altesse. Je copie maintenant une critique faite il y a près de 50 ans par une personne dont je ne retiens présentement que les initiales, MB. Et donc, Jean-Jacques cite ce ou cette MB. Il faut se rendre à l'évidence, Goethe n'aimait pas vraiment la musique de Beethoven. Ou peut-être, il serait plus exact de supposer que c'était un univers dans lequel il ne voulait ni ne pouvait pénétrer. Imprégnés comme nous sommes de cette musique, nous avons parfois tendance à oublier quelle éclatante, quelle déconcertante nouveauté elle représentait à peine échappée de sa main. Cette superbe énergie interne dont nous nourrissons devait être pour Goethe le signe d'une nature indomptée, selon l'expression, parlant de Beethoven, sans qu'il vit ou voulût voir quelle maîtrise artistique il faut posséder pour précisément dompter d'aussi démesurer l'âme de fond et les contraindre magnifiquement à la forme. Et puis Goethe trouvait que la musique de Beethoven faisait « trop de bruit », citation. Au cours de ce siècle, notre ouïe a été soumise à des surprises telles que nous pouvons mesurer combien sont nécessaires, pour sauter au-dessus des obstacles de cet ordre, une constante, une ardente curiosité que peut-être Goethe n'avait pas ou ne désirait pas avoir vis-à-vis de Beethoven. L'ouverture d'Egmont n'en demeure pas moins l'une des plus belles du maître, et le futur Fidelio devait s'enrichir de ses premières expériences destinées à la scène. Enfin, ne peut-on pas se demander si la langue que parle Beethoven n'est pas encore plus universelle, plus directement perceptible que celle de Goethe, non seulement parce que la musicalité de celle-ci échappe fatalement à ceux qui ne savent pas l'allemand, mais surtout parce que la musique et la musique de Beethoven a le privilège de frapper au but, c'est-à-dire à notre cœur, sans avoir à s'encombrer au préalable des retards et des pesées. De l'intelligence raisonnable. Voilà, MB. Toutes les critiques considèrent que Beethoven admirait l'œuvre de Goethe, il l'estimait au-dessus de tous les autres, et même si Goethe humainement le décevait, la puissance et la richesse de son individualité faisaient qu'il ne pouvait longtemps tenir rigueur à qui l'avait déçu ou offensé. Aussi enthousiaste et passionné qu'il était, les petitesses de certains de ses contemporains ne devaient que peu peser sur lui. Voilà. Eh bien, merci Jean-Jacques pour cette réponse fort motivée, avec l'intervention notamment de cette critique formulée il y a près de 50 ans par ce mystérieux MB. Je suppose que ce n'est pas Bakounine, hein, mais attends savoir. Non, hein, 50 ans, non, c'est pas lui. Ah, ça y est, pas trop mauvais en maths, le gars, finalement. Bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Ferry Club. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de venir parler de votre Léo, de venir programmer une ou deux chansons, une dizaine de chansons, une cinquantaine, pourquoi pas. Eh bien, vous me faites un petit mail, hein, le Ferry Club, tout attaché sans accent, leferryclub@gmail.com. Le Ferry Club, voilà, sans accent, tout attaché, c'est très simple, c'est facile. Vous retrouvez cette émission sur missnight.blogspot.com, le blog de l'émission, bien évidemment. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin d'elle. Ciao.
Au fond d'une guitare enragée à l'automne, il y avait du sang comme un dièse mouillé. C'était un bonne au détour d'une rue. S'il fallait parler de cette romance en allée dans la rue, avec ses habits du dimanche, alors que la semaine s'étire un peu mieux, au bout d'un certain du tragique, s'il fallait chanter cet éternel recommencement qui tient de l'habitude et du savoir constant et vérifié par les arbres, par les crépuscules teints, par les regards cachés derrière la pensée perverse ou religieuse, s'il fallait dire un peu de cette insouciance et qui nous mène au jardin des faillites et de la solitude, s'il fallait, alors remonterait du fond de nos cagibis inconscients, du fond de notre vouloir le plus profond, la certitude, le temps précis et incalculé et toujours indemne. Alors s'emballerait notre habitude retenue par la défense de s'insurger, de s'éprendre, de s'illusionner. Coriolan n'était qu'un prétexte. Egmont, parlons-en. Tu te souviens, sur cette plage tout en gravier, cette plage défaite au nom d'une certaine compromission entre la mer et le spectacle, cette plage que tu voulais défaite et soumise à ton imaginaire chorégraphie d'enfant seul et triste. Tu t'en souviens, dis. Tu t'en souviens. Et tu chantais. tu chantais, et tu chantais, et tu chantais, et tu chantais, et tu pensais qu'Egmont, c'était la mer. Le drame, les larmes, la beauté de cet instant fabuleux de solitude exaucée. Tu l'avais dit, et tu l'avais crié à ce prof impotent du verbe et de la grâce. Et tu t'étais caché, parce que tu étais seul au monde, et vaincu, et grinçant contre l'imbécilité secourue et protégée par la loi et par le nombre. Depuis, Egmont me remonte comme la mer, après ses descentes impitoyables au fond des enfers et de la nature fidèle. Egmont, comme une source bienheureuse et coulant, comme une génération tout entière de bienfaits uniques, parce que tu es l'unique, parce que je t'ai donné l'unique. Et ce temps qui s'est arrêté au bout de la seule invention de l'homme. Devine, je m'illusionne et je pars m'illustrant moi-même et me regardant à travers le style enfin parcouru au long de tous ces silences, de toutes ces vicissitudes interpolées par des copistes dont je me fais le modèle transmis, dont on sait tout et sans doute par voie orale. Quand je parle à l'illusion, je suis à bonne, sous-traitant la 14e symphonie chez un archiduc de mes prétendants. Je vais alors et maintenant vers l'horizon blafard et souriant peut-être, parce que de mon œil jusqu'à son désir de paraître, il n'y a probablement qu'une intention d'architecte. Ce que je vois se perd. Ce que j'instrumente ne peut qu'être perdu aussi. L'instinct du hautbois est une crécelle inventée par des lèvres secourues. Le vent, d'habitude, s'informe de ses perverses possibilités et se retrouvera bientôt dans le plan général de ses bois vertueux et grinçant, rien qu'à l'idée de se protéger tout en haut, à l'aigu, se défendant aussi de la fable contrapontique et apprise sur les bancs de l'informe et de la décadence. Le chant, le chant, le chant, et cette vertueuse passion qui ne va jamais au bout de la relative inversion, dans le moins, que l'on ne découvre qu'à force de bienfaits dans l'outrage et dans le sacrifice propitiatoire, un peu comme la terreur obligée du stupre et de la revendication. Je sais des formules apprises, je leur crachais dessus, je sais des impossibilités pratiques, je les décontenançais à force d'incroyable. L'incroyable, c'est la porte de secours que je poussais quelquefois, et personne jamais ne s'en est aperçu. La perversion m'obligeait à me rendre tel que les pervers pouvaient m'imaginer. Et encore, cette perversion tellement cachée au fond des mers conscientes, revue et corrigée par le cynisme des lois de préférence pénale. Je l'entendais au fond de moi comme les accords de la neuvième que j'avalais de travers parce qu'englouti pêle-mêle dans ma bouche auriculaire. Et je le rendais à qui de droit, je veux dire, aux inadaptés de l'esprit. Ils croyaient que je me trompais, alors que Stravinsky, c'était déjà moi, avec le sourire en plus. Enfin, ce sourire tout près de vos larmes, il faut concéder, ça favorise et ça trompe les historiens. J'allais jouer à la Marelle avec 32 cases. La sonate pour piano, c'est une démission de joueur. Quand Dieu se masturbe, il met du cassis dans ton vin blanc. Et tu jouis en même temps que lui, à cela près que Dieu, c'est toi aussi. Vous n'êtes rien moins que les informes copies de votre propre imagination. Lorsque tu imagines, tu crois être dans le spectacle, alors que le spectacle te regarde et te vérifie. Quand je transpirais auprès de Teresa, elle prenait ça pour du génie. Mon génie, c'était justement de m'arrêter à temps, au bord du non-dit, et de l'informuler. Tu sais bien que Rembrandt n'a jamais dessiné que des fadaises. Si tu voyais ce qu'il voyait, tu t'arracherais mes oreilles. Nous sommes d'un monde non édifié et que nous sommes seuls à parcourir. Encore qu'il faille un peu de désordre aussi et de cette indicible beauté qu'on ne dit même pas en musique ou au fusain et que nous immolons chaque soir avant de parcourir l'inédit et la fantastique pâleur du silence et de l'objectif inanité. Le néant vraiment finit par avoir une consistance tellement nous nous en informons, tellement nous le parlons avec nos mots et nos idées, alors que l'idée même en est transfigurée par nos sens et notre dérisoire entendement. Coriolan n'était qu'un prétexte. Egmont, parlons-en. Tu te souviens dit, sur cette plage, tout en gravier, cette plage défaite, au nom d'une certaine compromission entre la mer et le spectacle, cette plage que tu voulais défaite et soumise à ton imaginaire chorégraphie d'enfant seule et triste. Tu t'en souviens dit, et tu chantais, et tu chantais, et tu chantais, et tu pensais qu'Egmont c'était la mer. Le drame, les larmes, la beauté de cet instant fabuleux de solitude exaucée. Et tu l'avais dit, et tu l'avais crié à ce prof impotent du verbe et de la grâce. Et tu t'étais caché parce que tu étais seul au monde, évaincu et grinçant contre l'imbécilité secourue et protégée par la loi et par le nombre. Depuis, Egmont me remonte comme une source bienheureuse et coulant, comme une génération tout entière de bienfaits uniques, parce que tu es l'unique, parce que je t'ai donné l'unique. Et ce temps qui s'est arrêté au bord de la seule invention. La douleur.
C'est la fin du Féricom Club. Bye bye.
Et je garde cette espérance d'un désastre aérien.
Élodie, Mélodie, ma petite musique familière. Élodie, elle a dit trois mots et j'étais sous terre. Élodie, ma lady, ma princesse la communale. Élodie, elle a ri, ciao, bye bye à lundi. Élodie, poésie, ma seule histoire, ma grammaire. Mes campagnes d'Italie et mon Waterloo peu cher. Élodie, ma lady, ma princesse la communale. Élodie, elle a ri, ciao, bye bye à lundi. Élodie, elle m'a dit, non mais t'as pas vu ma taille, mais sa taille, Élodie, je n'avais vu que ça, oh oui. Élodie, ma lady, ma princesse la communale. Élodie, elle a ri, ciao, bye bye à lundi. Mais lundi, Élodie faisait l'école buissonnière avec monsieur Freddy, qui était le prof de gym pardi. Élodie, ma lady, ma princesse la communale. Élodie, dis Odie, quand m'aimeras-tu aussi. Élodie est partie à la pluie sans crier gare, et depuis sans répit je hante les ports, les gares. Élodie, ma lady, ma maîtresse la communale, votre élève vous crie ciao, bye bye à lundi. Élodie, ma lady, ma maîtresse la communale, votre élève vous crie ciao, bye bye à lundi.
Je bosse avant que mon boss vienne me coller des bosses sur le coin de la capoche. Faut que je bosse, que je négocie. Maloche, faut que je bosse avant que mon boss à coup de palais brosse me castagne, m'empoigne, m'embroche. Comment ça va la vie? Ben moi j'en peux plus, faut la gagner cette vie, se défoncer le cul. Comment ça va la vie? Au bûcher, gratter, trimer, turbiner toute la journée. Que j'achète bouffe, picrosse, brioche, téloche et sacoche. Faut que je bosse.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 11 juin 2025. Bah oui, vous avez reconnu notre générique, la suite en sol de Rameau, une interprétation d'Alexandre Tarot pour piano. C'est en direct que nous partons pour 1h30 d'émission, 1h30 de partage de livres, tout simplement, dans l'émission Au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric, Agnès, Marie, Francis, et aujourd'hui notre invité Gérard Da Silva pour son livre « Histoire sociale de la France, de la guerre des Gaules aux luttes contemporaines » publié aux éditions Matériologiques en 2024. Frédéric, des annonces, il y en a une, voire deux.
Tout à fait, deux annonces cette semaine, c'est formidable. Alors, je reprends, je l'ai déjà annoncé quand même, mais je ne goûte pas le plaisir de le refaire. Voilà. Alors, le 14 juin, donc samedi prochain, où ça, à l'espace Aéry, 57 rue Étienne Marcel, à Montreuil. Montreuil et le métro, ligne 9, Croix de Chaveau. Et quoi? Eh bien quoi? C'est Art et Anarchie, un colloque, Art et Anarchie et Émancipation. Le programme, La journée commencera à 10h par l'accueil, 10h30 une première intervenante et tout cela se terminera à 20h30. Alors, c'est un programme chargé, intéressant. Vous pourrez retrouver ce programme sur notre blog en cherchant sur un moteur de recherche Overblog, Commune de Paris, Fédération anarchiste Commune de Paris, overblog.com, et vous aurez dans les pages, surtout en haut, le programme détaillé. Venez nombreuses et nombreux, entrée libre. Puis ensuite, la semaine prochaine, exactement, dans 7 jours, le 18 juin 2025 à 20h à la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkamp au fil du calvaire, le ciné de la commune vous proposera un documentaire sur Jean Métron, pionnier de l'histoire ouvrière, et il initie en 1955 une entreprise colossale, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Alors il y a un site, le Métron, qui existe aussi. Hein. Alors ce film évoque cette formidable aventure collective et la figure de son créateur. Alors ce durera à peu près une heure, et puis vous pourrez, disons, discuter par la suite. Donc ça aussi, vous retrouverez bien sûr ces informations sur le blog du groupe Commune de Paris. Francis, que vas-tu nous dire ?
Eh bien, en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse, ben, vous la connaissez, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Le blog du groupe Commune de Paris, Fred en a parlé, il suffit de cliquer sur « Contact ». Et puis au programme de cette émission, ben, une relative diversité de thèmes et de livres. Première demi-heure, comme d'habitude, pour alimenter le débat. Et c'est le retour de Marie, après ses examens de fin d'année universitaire. Lors de notre émission du 28 mai, nous avions présenté le livre « France, terre d'accueil » de Marianne Leloup d'Assonville, publié aux éditions Rue de l'Échiquier. Et puis, vous pouvez toujours, d'ailleurs, retrouver la recension de ce livre sur le site du Monde Libertaire. Et là, Marie souhaite aborder et présenter la revue Délibérée, une revue portant sur la justice et éditée par la Découverte et avec la participation active du syndicat de la magistrature. Nous abordons là la question de la nationalité. C'est le thème de la revue. Frédéric, on envoie l'intervention de Marie.
Alors, je vous présente aujourd'hui la revue Délibérée, Justice, Droit, Liberté, sur le thème des épreuves de la nationalité. La revue est parue en mars 2025 aux éditions La Découverte. Donc, il s'agit d'une revue de réflexion critique animée par le syndicat de la magistrature. La première partie de la revue, consacrée aux épreuves de nationalité, porte dans un premier point sur la nationalité et ses juges, en retraçant l'historique du droit de la nationalité qui naît dans la jurisprudence des parlements d'Ancien Régime et qui servait principalement pour les juges à trancher des conflits privés entre héritiers, en catégorisant d'un côté les nationaux rénicoles et les étrangers aubains, ces derniers ne pouvant pas transmettre leur patrimoine. Sous l'Ancien Régime, le roi pouvait, selon son bon vouloir, naturaliser un sujet d'origine étrangère par la délivrance de lettres de naturalité. Une lente évolution du système juridique.